La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
La semaine dernière, nous avons commencé à considérer le message du troisième ange. Et durant cette première partie, nous avons établi l'identité de la bête montant de la mer et de son image. Et en ce matin, nous allons considérer la deuxième partie de cette série de présentations sur le message du troisième ange. Et pour ce faire, commençons par considérer à nouveau son message tel que contenu au verset 9 à 12 du chapitre 14 du livre de la Révélation de Jésus-Christ, à savoir l'Apocalypse. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et là, nous lisons, « Et un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Durant la première partie de notre présentation sur le message du troisième ange d'Apocalypse 14, nous avons vu que la bête, qui est aussi décrite en Apocalypse 13, versets 1 à 10, représente la papauté. L'image de la bête, qui est quant à elle décrite au verset 14 et 15 du chapitre 13, représente l'organisation similaire à la papauté qu'établira les États-Unis d'Amérique, qui sont, quant à eux, représentés par la bête montant de la mer. Et c'est à partir du verset 16 qu'est introduit la marque de la bête. Rendons-nous donc à nouveau, comme nous l'avons fait la semaine précédente, en Apocalypse 13, et considérons le verset 16, parce que nous avons arrêté notre lecture et notre étude au verset 15. Je répète, la fois précédente, nous avons considéré Apocalypse 13, versets 1 à 15. Aujourd'hui, nous allons considérer à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, la fin du chapitre. Verset 16, il est dit, « Et elle faisait que tous, si je reprends le verset 15 pour une meilleure compréhension, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. » Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Verset 17. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. L'étude de ces trois versets nous conduira non seulement à établir ce qu'est la marque, mais également le nom et le nombre de la bête. En fait, l'identification du nom et du nombre de la bête viendront confirmer celle de la marque de la bête. Et c'est pour cela qu'il nous faut commencer par le commencement, à savoir identifier ce qu'est la marque de la bête. D'après le verset 16 et 17, ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête seront l'objet d'un boycott économique. Et d'après le verset 15, les hommes seront forcés à prendre cette marque sous peine de mort. Et le fait que le protestantisme apostat, à savoir l'image de la bête, forcera les hommes à prendre cette marque implique que sa réception est liée à l'obéissance d'une loi. Le verset 15 nous dit qu'une fois animé par la nation américaine, la bête montant de la terre, le protestantisme apostat, l'image de la bête, parlera. Mes amis, comment une organisation politique s'exprime-t-elle? Par ses lois, c'est cela. Par ses lois. Ainsi, cette organisation politico-religieuse édictera une loi dont l'obéissance rendra hommage à la papauté, la bête montant de la mer. Et la particularité de cette loi est qu'elle sera contraire à la loi de Dieu. Je reprends, la particularité de cette loi est qu'elle sera contraire à la loi de Dieu, car en décrivant ceux qui ne rendront pas hommage à la papauté, la bête montant de la mer, la Bible présente l'observation des commandements de Dieu comme étant l'une de leurs caractéristiques. En effet, en Apocalypse 12, verset 17, il est dit « Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Rappelez-vous que c'est le dragon qui a donné sa puissance, en fait, à cette bête, d'accord? Et on a vu qu'il y a un double symbole, ok, ici. Et notamment le premier qui est celui du diable, ok? Et on nous parle de ces mêmes individus au chapitre 14 et au verset 12 que nous avons lu. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, le fait que ceux qui ne prendront pas la marque de la bête se caractérisent, se distinguent par leur observation des commandements de Dieu implique que cette marque sera en opposition aux commandements de Dieu. Considérons à présent l'aspect du sceau de Dieu. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que les adorateurs de la bête recevront sa marque sur leur front, notamment. Tandis que les serviteurs de Dieu seront marqués au front de son sceau. Apocalypse 7, versets 1 à 4, nous lisons « Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant, « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Notez qu'ici, il y a des personnes qui sont marquées au front. Et ces personnes-là sont les serviteurs de Dieu, en fait, d'accord? Ces personnes-là viennent s'opposer, en fait, à ceux qui sont marqués au front et qui suivent la bête, en fait. Étant contraire à la loi de Dieu, la marque de la bête est par conséquent en opposition au sceau de Dieu. De ce fait, l'étude du sceau de Dieu nous aidera à établir ce qu'est la marque de la bête. Le dictionnaire Robert nous donne la définition suivante concernant le sceau. Premièrement, c'est un cachet officiel dont l'empreinte est apposée sur des actes pour les rendre authentiques ou les fermer de façon inviolable. D'accord? Et il donne un exemple, le garde des sceaux. Deuxièmement, empreinte faite par ce cachet, sire, plomb portant cette empreinte, d'accord? A posé son sceau sur un document scellé. D'accord? La première définition que nous donne le dictionnaire Robert est celle concernant l'instrument. D'accord? L'instrument peut être qualifié comme étant le sceau, en fait. Mais la deuxième définition est l'empreinte laissée par l'instrument, qui est aussi qualifiée de sceau, en fait. Donc, lorsqu'on parle du sceau, il nous faut avoir en tête ces deux aspects-là. L'instrument et l'empreinte laissée par l'instrument. Les deux sont qualifiés et peuvent être qualifiés de sceau. D'accord? Et il est intéressant de noter un sceau officiel indique toujours les trois mentions suivantes. D'accord? Premièrement, le nom du législateur. Prenons un exemple avec notre pays, celui qui en est à la tête. Le sceau du président de la République française, en 2019, portera le nom d'Emmanuel Macron. La deuxième caractéristique, c'est son rang. D'accord? Quel est son rang à notre président? Justement, je viens de le dire, c'est qu'il est président, en fait. Et la troisième caractéristique, c'est son domaine, son lieu d'exercice, à savoir la France. D'accord? Donc, il y a ces trois caractéristiques-là. Un sceau contient ces trois caractéristiques. Le nom du législateur, son rang, son domaine ou lieu d'exercice. Et voyez-vous, telles sont les indications contenues dans le quatrième commandement. En effet, en Exode 20, versets 9 à 11, j'aurais pu commencer au verset 8, mais volontairement, je commence au verset 9. Il est dit, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Là, on nous indique le législateur. Poursuivons. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait. Il a fait, il a créé. Donc, c'est sa qualité, c'est son rang. Il est créateur. Poursuivons. En 6 jours, les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Là, nous avons son domaine, son lieu d'exercice. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Et voyez-vous, de manière intéressante, lorsque le premier ange nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire et de l'adorer, c'est les mêmes caractéristiques qu'il va donner. Remarquez, il va faire allusion aux mêmes caractéristiques. En effet, lisons versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu, ok, le législateur, et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait. » Là, à nouveau, on a son rang, sa qualité, le créateur. Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau sont lieu d'exercice, son domaine. Donc, en nous appelant, en fait, à adorer Dieu, le premier ange, en fait, nous ramène à la sanctification du sabbat, en fait, à adorer Dieu en esprit et en vérité, en conformité à sa loi. Et donc, nous voyons ainsi que le sceau de Dieu est contenu dans le quatrième commandement. Et c'est pour cela qu'en Exode 31, verset 13, l'Éternel déclara, « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » Donc ici, il est clair que le sabbat est un signe, en fait. Il sert de signe entre Dieu et son peuple, en fait. D'accord? Et vous pouvez aussi voir ça dans Ézéchiel 20, versets 12 et 20. L'observation du sabbat du 7e jour est pour le croyant dans son cœur, le signe de son alliance avec Dieu. Et à travers ces trois textes que nous avons considérés concernant le sabbat, nous avons vu que parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e est le seul qui contienne son nom, son titre et son domaine. Il est l'unique commandement qui présente par quelle autorité le décalogue a été promulgué. Par conséquent, le sceau de Dieu, contenu dans le 4e commandement, est la preuve de l'authenticité des 10 commandements. Et comme l'observation du sabbat du 7e jour marque notre allégeance au Créateur, il s'ensuit que l'observation du dimanche marque, quant à elle, notre allégeance à la papauté. C'est en tout cas ce que nous confirment les autorités de l'Église catholique romaine. En effet, H.F. Thomas, le chancelier du cardinal Gibbon, déclara « Évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte. Et l'acte est une marque, dit-il, de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. » D'accord? Donc, sans crainte, ils nous disent que c'est une marque de son autorité ecclésiastique. Louis Ségur, dans Plain Talk for Protestants, à la page 213, nous déclara « L'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. » Rappelez-vous de la signification du mot « adorer », adorer la bête et son image, que nous avons vu en Apocalypse 14, verset 9. On avait vu que cela avait pour sens de rendre hommage, en fait. D'accord? Et donc, c'est ce qui se passe, en fait. En sanctifiant le dimanche, on rend hommage, on adore la bête et son image. Henry Tuberville, dans The Jew et Catéchisme, à la page 59, dans une série de questions-réponses, déclara « Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'établir les fêtes, des fêtes tout du moins, et des jours saints ?» Réponse, par le simple fait qu'elle a transféré le sabbat au dimanche, ce que les protestants reconnaissent. Par conséquent, ils se contredisent naïvement en observant strictement le dimanche et en rejetant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Question. Comment prouvez-vous cela? Réponse. Parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Stephen Keenan, dans A Doctrinal Catechism, à la page 174, dans une série de questions-réponses, déclara quant à lui, question. Avez-vous une autre manière de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivités ou des préceptes? Réponse. Si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le septième jour. Un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Donc, ce changement relève de son autorité. D'accord? Ce changement relève de son autorité. Bien-aimés, le dimanche est la marque de l'autorité de la papauté, la bête montant de la terre. Par conséquent, le protestantisme apostat d'Amérique, l'image de la bête, promulguera une loi qui visera à rétablir la sanctification du dimanche. Et d'après Apocalypse 13, versets 8 et 12, les nations de la terre entière l'imiteront. Mais alors, comment des non-chrétiens pourront-ils rendre hommage au pape en observant le dimanche? La prophétie nous dit que les hommes recevront la marque soit sous la main droite, soit sous le front. Voyez-vous, la répétition du décalogue figure au chapitre 5 du livre de Deutéronome. Et au sujet de l'observation des commandements, nous lisons ce qui suit au chapitre suivant. En effet, en Deutéronome 6, versets 3, 6 et 8, notez bien ce que nous allons lire. « Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les pratiquer. » Tu prendras garde de les pratiquer, je souligne. « Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. » Verset 6. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. OK? Verset 8. Et tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. D'accord? Dieu ne voulait pas simplement que les enfants d'Israël pratiquent ces commandements de manière purement formaliste, qu'ils les accomplissent. Mais il voulait que ces derniers soit dans leur cœur. Ainsi, la main symbolise la pratique, le fait de se conformer, tandis que le front symbolise le consentement, la conviction. Par conséquent, ceux qui prendront la marque à la main seront ceux qui observeront le dimanche par complaisance, tandis que ceux qui la prendront au front seront ceux qui l'observeront en raison de leur croyance. Et rappelez-vous ce que déclare maintenant le verset 17. Apocalypse 13, verset 17. « Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » J'ai volontairement souligné ces deux mots-là, « ou », d'accord, qui figurent d'ailleurs dans le texte original grec. Okay? Le terme « ou », voyez-vous, est une conjonction de coordination servant à marquer l'alternative. OK? Je reprends cela. C'est un point charnière dans notre présentation de ce matin. Le terme « ou » est une conjonction de coordination servant à marquer l'alternative. Autrement dit, le nom ou le nombre de son nom sont l'alternative de la marque de la bête. Intéressons-nous maintenant au nom de la bête. Dans le journal catholique « Our Sunday Visitors » du 18 avril de l'année 1915, volume 3, numéro 51, page 3, il est dit « Quelles sont les lettres censées être sur la couronne du pape ? Et que signifient-elles si elles ont un sens ? Les lettres inscrites sur la mitre du pape sont les suivantes. Vicarius Filii Dei, ce qui est le latin de vicaire du Fils de Dieu. Les catholiques soutiennent que l'Église, qui est une société visible, doit avoir un chef. Ainsi, le nom, le titre, le nom officiel du pape, de la bête, d'après l'Église catholique romaine, est Vicarius Filii Dei en latin, ce qui signifie vicaire du Fils de Dieu. Mes amis, lorsque Dieu changea le nom de Jacob en Israël, cela était le symbole du changement de son caractère, d'après ce qu'on peut lire en Genèse 32 et notamment le verset 28 où il est fait question de ce changement. Ainsi, ceux qui auront reçu la marque ou le nom de la papauté auront en réalité reçu son caractère. De la même manière que ceux qui auront reçu le sceau ou le nom de Dieu, le Père, auront en réalité reçu son caractère, le caractère divin. Donc, il y a ici deux dimensions. Ceux qui reçoivent un caractère divin et ceux qui reçoivent un caractère humain, en fait. La prophétie nous parle de la bête et de son image. Mais voyez-vous, Dieu aussi, il a une image. L'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens 4, verset 4 et en 1 Colossiens 1, verset 15, que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. C'est en suivant le protestantisme apostat, l'image de la bête, que les hommes recevront le caractère de la papauté, la bête. De même, c'est en suivant Jésus-Christ, l'image de Dieu, que les hommes pourront recevoir le caractère de Dieu. Et mes amis, voilà la contrefaçon. Voilà la contrefaçon. Satan ne veut pas que nous recevions le caractère de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons sanctifiés. Et Dieu, pour nous sanctifier, il a un instrument, c'est son sabbat. Et avec cet instrument, il va laisser une marque sur nous, son sceau. Il va utiliser son sceau pour laisser son sceau, l'instrument pour laisser son empreinte sur nous, mes amis, pour nous sanctifier. Amen. Mais la bête ne veut pas cela. Tout du moins, Satan ne veut pas cela. Et donc, il se sert de la bête et de son image. Et tout particulièrement, de l'image pour captiver l'attention des hommes de manière à leur donner le caractère de la papauté, une institution humaine qui s'oppose à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'à son Dieu et Père. Qu'en est-il alors du nombre ? Apocalypse 13, verset 18, nous dit qu'il s'agit d'un nombre d'hommes. La bête représente une organisation humaine. Et comme cette dernière a déjà été identifiée, le nombre 666 doit alors avoir un rapport avec le nom de ce pouvoir. Nous avons identifié cette bête comme étant le pouvoir papal. Et nous avons établi que son nom est Vicarius Filii Dei, ce qui est le latin de vicaire du Fils de Dieu. Voyez-vous, en latin, chaque lettre possède une valeur numérique. Et il est intéressant de noter que la valeur numérique du nom de ce pouvoir donne un nombre total de 666. Et je tiens à dire au passage ici que le V et le U en latin ont une valeur égale, similaire, d'accord? Donc, lorsque vous faites le calcul et que vous attribuez chaque la valeur numérique qui convient à chaque lettre et que vous additionnez, vous obtenez 666, d'accord? Faisons un résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici. La marque, le nom et le nombre. La marque, le nom et le nombre. Ça fait trois choses, n'est-ce pas? Mes amis, Dieu donne à l'humanité trois témoins pour identifier la papauté comme étant le pouvoir qui sera exalté à la fin des temps. Il donne trois éléments pour montrer comment les hommes vont rendre hommage à Satan, l'ennemi de nos âmes, par le biais de cette organisation humaine, religieuse, corrompue. Et voici ce que nous enseigne le message du troisième ange. Voyez-vous? Mais malheureusement, tous ne sont pas d'accord avec cela.
Posez-vous une question très simple.
There are 14 to 20 million Adventists.
Il y a entre 14 et 20 millions d'adventistes.
We're a highly sophisticated organization across the world.
Nous sommes une organisation très sophistiquée de par le monde.
We're on every continent.
Nous sommes sur chaque continent.
There is nothing that happens in the world that escapes the attention of this church.
Il n'y a rien qui se passe dans le monde qui échappe à l'attention de cette église.
We have liberals, conservatives, and everything in between.
Nous avons les libéraux, les conservateurs et tout au milieu.
So if that were the case,
si c'était le cas,
ask yourself this question.
Alors posez-vous vous-même cette question.
Our understanding, this movement's understanding of the Sunday law,
la compréhension de ce mouvement